France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Alexandre Astier.
Elsa Boublil.
L'éternité, c'est long, surtout vers la fin.
Woody Allen. C'est sur cet extrait de « Jésus que ma joie demeure » de Jean-Sébastien Bach, une cantate qui a inspiré votre spectacle « Que ma joie demeure » Alexandre Astier, un spectacle qui a été représenté de 2012 à 2013 et dont il existe une édition en DVD dorénavant. Vous êtes musicien, compositeur, arrangeur, comédien, auteur, réalisateur, créateur de la série Kaamelott. Vous avez réalisé plusieurs Astérix, Le domaine des dieux et bientôt Le secret de la potion magique. Bonjour Alexandre Astier, ça fait beaucoup tout ça.
Je suis désolé, bonjour.
Mais il semblerait quand même que dans toute cette panoplie à multiples facettes, ce soit la musique qui soit au centre de tout.
Oui, c'est pour, déjà parce que c'est, je pense que c'est la première. Et puis parce qu'en fait, tous les postes que vous avez gentiment cités, en fait, sont juste issus de quelqu'un qui veut garder la main mise sur le rythme, en fait. Le montage, la réalisation, et puis le dialogue qui n'est finalement pas grand-chose d'autre que de la musique. Donc c'est juste ça que je garde. Je suis pas boulimique de bosser, hein. Au contraire, j'aimerais bien rien faire, mais je garde juste ce qui est garant de la musique, en fait.
Mais voilà. Ça veut dire que oui, c'est ça. Vous concevez finalement tout la scénarisation, enfin votre art, pour dire les choses simplement, comme de la musique.
Oui, et puis je crois que on parle pas très souvent du montage parce que quand on habite un peu comme ça, puis surtout quand on énumère des trucs. Il y en a beaucoup, bon, voilà. Et en fait, le montage, c'est quand même une manière très musicale de faire dire quelque chose à quelque chose ou de le louper. C'est-à-dire que il se passe tellement quelque chose de clé à ce moment-là. Mais quand je dis clé, c'est même interrupteur, c'est on ou off, ça marche ou pas. Et le montage, vraiment, c'est une chose dont je pourrais absolument pas me passer, parce que c'est le dernier garant du rythme de ce qu'on présente. C'est la dernière solution qu'on a pour transformer ça en une phrase juste.
On va passer une heure et demie ensemble. Je tiens à signaler à nos auditeurs que Bach sera le héros de cette émission.
Mais j'ai failli m'excuser, mais quand même, c'est un joli héros. On va pas présenter nos excuses aux auditeurs. Oui, il y aura beaucoup de Bach.
Certainement pas, oui, c'est vrai. Beaucoup de Bach, puisqu'Alexandre Astier, vous avez créé ce spectacle Que ma joie demeure, mais on va le découvrir au fil de l'émission. Jean-Sébastien Bach semble presque être un ami proche.
J'aurais bien aimé... Quoique, ce que je sais de lui, c'est, je sais pas s'il était un bon ami. Il paraît qu'il aimait bien bouffer.
Mais il a pas l'air toujours très sympa.
Non, mais alors moi, le truc, c'est que j'ai été élevé dans les conservatoires et les seuls portraits de Bach qui trônaient sur les murs étaient pas hyper sympas. C'est quand même, bon, voilà. C'est des portraits qui, à mon avis, parlaient de ça, un peu de la religion, du poids de son éducation et de celle qu'il donnait aussi à ses élèves. Mais il a certainement été plus sympa que ça. Il a fait de la prison parce qu'il a foutu un coup d'épée à quelqu'un qui avait insulté sa cousine. Il y a quand même une sympathie chez le bonhomme. Il y a un truc, nettement.
Alexandre Astier, l'invité de Musique et moi jusqu'à 12h30 sur France Musique. Merci à vous d'être là.
Thank you.
le concerto pour deux violons et orchestre en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, interprété par I Musici dans son premier mouvement, un orchestre italien qui date des années 50. Alexandre Astier, c'est votre premier souvenir musical?
Voilà, c'est celui-là. Je le dis d'autant plus honnêtement que du coup, c'est pas la version que je préfère aujourd'hui.
Ouais.
Enfin bon, c'est celle que j'ai entendue. Ma mère sortait avec un Italien à l'époque. J'imagine qu'il avait des disques. Il était musicien. Il avait des disques d'orchestre italien. Une petite préférence pour les Anglais aujourd'hui. Mmh. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert Bach, sur une platine vinyle.
Vous souvenez de, je sais pas, de l'écoute, de la première écoute, de l'envie de le réécouter
Oui, alors c'est très curieux, ça va paraître un peu bizarre, mais je pense qu'il y a une bascule harmonique dedans, la première modulation sûrement, parce qu'il fait une pédale à un moment, et je crois que ce truc-là, je mettais aucun nom dessus, bien évidemment, hein, c'est juste j'écoutais, mais ce truc-là me fascinait. Donc en fait, je pense que je suis pas souvent allé plus loin que les 25 premières secondes.
Ah ouais, c'est non. Vrai.
Par contre, celle-là, je me la suis bouffée. Je trouvais qu'il y avait un truc complètement magique dans ce début. Maintenant, je pourrais mettre des noms dessus. Il me semble que oui, c'est la pédale de sol avant que ça redémarre. Je pense que c'est ça. Mais maintenant, c'est un truc. C'est pas que c'est acquis, mais je veux dire, c'est un mode qui est enseigné. C'est pas un mystère. Il y a rien d'ésotérique là-dessous. Mais sans les explications, sans avoir vraiment écouté de musique classique, ce moment-là, je me le repassais beaucoup.
Quelle enfance, Alexandre Astier, vous avez grandi où? Des parents, je crois, comédiens, enfin...
Ouais, mes parents étaient comédiens, je suis lyonnais. Et comme mes parents étaient en tournée, ma mère était beaucoup en tournée, j'ai été élevé un peu à moitié chez les Italiens du quartier de Gerland. Donc j'étais entre les ouvriers italiens, espagnols, et de temps en temps, quand je retournais chez mes parents, plutôt les acteurs, le théâtre, les salles de répète, les loges et tout ça.
Donc voilà. Beaucoup de musique, beaucoup d'environnement, en tout cas teinté de musique, parce que dans le théâtre, j'imagine.
Oui, en tout cas scène. Et puis une mère qui, je lui poserai la question un de ces jours, qui avait décidé qu'il fallait être musicien. Elle me disait ça quand j'avais.
Ah oui.
Ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où elle l'a tiré. Il n'y a pas vraiment de musicien dans son giron. Donc je sais pas. J'avais 6 ans et puis elle disait c'est plus important que les maths. Elle se trompait. Je pense que ça l'est pas. Ça l'est pas moins, mais ça l'est pas plus non plus.
Les maths sont très présents dans le spectacle, par exemple, que Ma joie demeure.
Mais je pense que c'est la même chose, en fait. Ouais. Donc, c'était une facilité pour elle de faire la différence. Il faut pas les opposer. En revanche, elle avait décidé que ce serait capital dans l'éducation que je recevrais. Donc, voilà.
D'accord. Donc, quel instrument? Vous avez commencé par quoi?
Alors, j'ai commencé comme beaucoup de petits garçons par du solfège seul, et puis j'ai fait de la contrebasse tout de suite.
Tout de suite de la contrebasse.
Ouais, j'étais contrebassiste classique. Toute mon éducation, parce que j'ai fait partie, je pense que ça existe encore, les CHAM, les horaires aménagés,
oui,
où on va à l'école
sûr.
Le matin. Et où, voilà, je suis un petit garçon des CHAM, moi.
Et donc, Jean-Sébastien Bach et la contrebasse, ça marche?
Non, rien marche avec la contrebasse, excusez-moi.
Thank you.
Un extrait des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, interprété par Ekaterina Derchavina, qui est une interprète, je crois, Alexandre Astier, qui est chère à votre cœur actuellement.
Oui, alors ça faisait partie de cette époque où je cherchais les Variations Goldberg, ou plus exactement le clavier bien tempéré, par n'importe qui. Je bouffais absolument tout ce qui existait, j'ai écouté des choses très moyennes, des choses très mauvaises aussi.
Ah oui.
Et puis je suis tombé sur deux, trois trucs... Voilà, parce qu'il y a quand même Gould qui trône là au-dessus, qui est difficile à matcher quand même, au finish, sans vouloir faire de snobisme débile. Et je suis tombé par hasard sur quelqu'un qui a enregistré très peu, et à l'époque qui va enregistrer encore moins qu'aujourd'hui, qui s'appelle Ekaterina Derchavina, et qui effectivement, dès les premières notes, moi ça m'a... C'est exactement comme ça que je le jouerais si j'avais ce talent-là. C'est exactement comme ça que je voudrais que ce soit. Ce mélange de dynamisme, de rythme, qui est pourtant pas si scolaire que ça. C'est-à-dire que c'est dynamique, c'est juste, et en même temps, il y a une liberté dedans.
Oui, il y a presque une façon de... Oui, c'est ça. On dirait qu'il y a la liberté rythmique dans l'interprétation.
Exactement. Il y a même une liberté sur les variations, sur les reprises, elle rajoute des choses. Je trouve ça toujours d'un goût absolument parfait, et toutes les variations sont comme ça. Tout l'album est comme ça. Donc j'ai été très impressionné par cette interprète.
Vous êtes devenu pianiste depuis Alexandre Astier? Vous composez peut-être au piano?
J'ai toujours composé au piano, comme tous les flemmards, parce que les harmonies sont là plus vite. Mais je suis juste quelqu'un qui tripote parce qu'il a besoin. J'ai jamais été pianiste technique, bien entendu. Mais j'ai rencontré Ekaterina Derchavina. Je suis allé la voir en Allemagne, parce que j'aurais voulu lui faire enregistrer le clavier bien tempéré.
Ah oui.
Ouais. Après, c'est compliqué. J'avais beaucoup de choses à faire. C'est difficile de se lancer dans la production de disques à mon âge et tout court quand on l'a pas fait. Mais je veux dire, elle comprenait pas pourquoi, parce qu'elle disait, mais vous êtes un producteur, vous êtes qui? Évidemment, elle est pas française, elle sait absolument pas qui je suis. Mais elle disait, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi moi? Pourquoi machin? Est-ce que c'est une histoire? Elle comprenait pas pourquoi est-ce qu'on ferait ça. Je lui dis non, je crois que c'est important que ça existe. C'est tout. C'est pas pécuniaire comme souci. C'est
vous
juste...
avez envie que ça...
Bah ouais,
que...
voilà. J'ai toujours envie que ça existe. Ouais. Mais il faut s'en
Peut-être
occuper.
Peut-être que ça arrivera.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Alors, Jean-Sébastien Bach, parce qu'on va parler de lui, on a dit qu'on allait parler de lui,
oui,
faut qu'on en parle.
Avec plaisir.
Qu'est-ce que c'est que cette... Vous êtes tombé dedans comme dans la potion magique Obélix. On dirait qu'il y a quelque chose de cet ordre-là.
Ouais, je pense qu'il y a lui et les autres, mais très honnêtement. Ça veut pas dire que... C'est pas toujours le plus sensuel, mais je veux dire... Je n'arriverai pas à comprendre tout à fait jamais. Il y a un truc quand même que un grand prof d'écriture que j'avais m'a dit à l'époque. Il y a des gens qui proposent une scolarité. Il y a des compositeurs qui proposent une scolarité. On peut en tirer quelque chose. On peut en tirer une école. On peut comprendre Mozart puisque c'est. On peut piger ce qu'il fait. On peut deviner ce qu'il aurait fait en passant par la. L'étude de la composition passe beaucoup par l'imitation. Donc, dans la musique, c'est normal, quoi. Bach aussi en propose une. Ravel, non. Ravel, c'est complexe. Et Debussy, encore plus, même, peut-être.
Vous voulez dire qu'il propose un schéma?
C'est-à-dire qu'en fait, on peut trouver ça formidable. Et il y en a, on peut réussir à décrypter un peu une méthode dessous. Et il y en a, non. Parce qu'en fait, ils en ont peut-être pas. Ou en tout cas, elle n'est pas visible. Il n'y a rien de formulable. Du coup, Bach, on peut apprendre à écrire comme Bach. Parce qu'en fait, c'est simple. Sauf que ça sonne jamais comme lui.
C'est ce que vous avez essayé de faire dans votre spectacle Que ma joie demeure, essayer de comprendre par l'humain que c'était sa façon d'écrire. On a l'impression que vous êtes en recherche quand même.
J'ai l'impression, pour avoir rencontré des scientifiques, qu'il y a un petit cousinage entre lui et les scientifiques. Notamment dans le fait de dire que quand on pousse une porte, en fait, ce n'est que pour rentrer dans une pièce qu'il y a une autre porte à ouvrir. D'ailleurs, ses dernières œuvres, l'art de la fugue, commence à rentrer dans des zones de recherche du contrepoint qui foutent le tournis, et ça prouve qu'il est allé beaucoup plus loin que simplement la beauté du son.
Oh.
Unter deinem Schirmen, un extrait aussi de votre spectacle que ma joie demeure, Alexandre Astier, puisque vous l'utilisez pour illustrer finalement le personnage de Jean-Sébastien Bach. C'est un moment d'ailleurs extrêmement tragique, délicieux, où on le voit dans sa fragilité.
En fait, ce spectacle, il m'est, bon, j'ai un amour immodéré pour Bach, je ne peux pas m'en cacher, mais il y a quand même eu une phrase de sa femme qui disait « Il n'a pas l'air bien en ce moment, je ne sais pas trop ce qu'il a, il tourne un peu autour de son clavier, il n'a pas la pêche, tout ça. Peut-être est-ce que ça pourrait être la mort de notre dernier qui l'a particulièrement touché. » Et j'ai trouvé ça complètement dingue. Si vous avez des enfants, j'en ai. Au bout d'un moment, on se dit, mais oui, c'est, tu penses bien, Colombo. Même si jamais, effectivement, la vie, peut-être surtout des enfants en bas âge, valait pas. Enfin, je veux dire, il fallait s'habituer à leur disparition à l'époque. Mais tout de même, il en a perdu 10 sur 20 en deux mariages. Ouais, peut-être qu'il a été un peu touché par le truc, oui, forcément. Et moi, en fait, je me suis mis dans... à notre époque, avec l'importance qu'on donne à la vie et les enfants, et la catastrophe absolue et terrible et totale que c'est si jamais il leur arrive le moindre truc. Et on se dit, ouais, le mec écrit peut-être pas la même chose s'il perd la moitié de ses gosses, quoi. Sûrement. Donc c'est ça qui m'a donné envie d'écrire le spectacle. C'est-à-dire, le mec, en fait...
D'accord, c'est parti de là.
Oui, sa femme a l'air de pas être très au courant de pourquoi il est triste.
Oui.
Et moi, c'est ce que j'ai eu envie de dire. Ça y est, j'ai compris pourquoi je suis triste. Je suis triste, en fait. C'est ça, le truc.
Et c'est ça que je voulais vous demander, parce que vous nous le présentez sous un aspect éminemment humain. On arrive mieux à comprendre, d'ailleurs, certains aspects des compositions. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez beaucoup lu sur Jean-Sébastien Bach pour écrire ce spectacle?
Oui, j'ai beaucoup lu, et j'ai quand même pas mal beaucoup lu Cantagrel.
Oui, Gilles Cantagrel, qui d'ailleurs apparaît dans le...
Oui, qui a eu la gentillesse de me faire... Oui, effectivement. Alors après, Cantagrel, ce que j'aime bien, c'est qu'il se sert de ses courriers, et qu'effectivement, les courriers, de temps en temps, ils ont l'air un petit peu... Bon, oui, c'est une matière triviale quand même, parce qu'on a des notes de frais dedans, on a des factures, on a des courriers... à sa direction, à l'église Saint-Thomas, parce qu'il n'est pas d'accord avec tel, ou qu'il a l'air un peu, en plus, il a l'air chiant à bosser, oui, le gars. Mais il transparaît quand même qu'il y a une vie derrière ça. Moi, ça me parle plus que le fameux portrait que j'avais dans les salles de classe du conservatoire quand j'étais petit. Et là, du coup, effectivement, la question de qui peut écrire un truc pareil, qui peut faire la moitié de sa vie à acheter des poulets, et l'autre moitié de sa vie à écrire ce qu'on entend là. Ça reste un mystère.
Avec la force dans ce spectacle de nous le présenter donc sous son aspect humain et néanmoins la sensation d'une connaissance de l'œuvre suffisante pour pouvoir finalement un peu déchiffrer ce qu'il y a derrière l'œuvre.
Ah, déchiffrer, je prétendrai pas ça, mais un truc de certain, c'est que il a dit des choses sur ses enfants, notamment il en avait un qui était peut-être un petit peu retardé, oui, et il disait c'est peut-être lui le plus doué finalement, sous-entendu, je le cite mal, mais peut-être parce qu'il a un accès à son instinct peut-être plus direct ou peut-être que je sais pas quoi, il parlait de ses enfants. Un type qui parle de ses enfants comme ça ne peut pas se foutre du fait qu'ils disparaissent prématurément, c'est pas possible que ça ne le bouleverse pas. Pourtant, d'après sa femme, c'est juste une option.
Thank you.
Martha Argerich interprète le concerto pour piano en sol majeur dans son mouvement Adagio assai de Ravel avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Claudio Abbado. Alexandre Astier, donc, vous n'êtes pas pianiste et néanmoins vous avez étudié cette œuvre.
Ah oui, c'est tombé au programme. Je ne sais plus quelle classe j'étais et on est resté quelques mois dessus. D'ailleurs, j'ai ou décortiqué beaucoup ou passé à côté complètement d'autres trucs. C'était vraiment... Il y a vraiment des gens que j'ai complètement évités, pas volontairement, mais parce que ça tombait pas dessus comme ça. On a passé un long moment sur Mozart, sur le Requiem, et sur cette œuvre-là, notamment sur l'Adagio, oui, c'est vrai.
Et l'Adagio assai qui vous a marqué, pourquoi pas? C'est le piano, le jeu du piano?
Non, je crois qu'il y a un passage, une fois que les thèmes sont passés, qui sont magnifiques, hein, et qui sont vraiment un modèle d'arrangement terrible, d'orchestration. Il y a un passage au piano quand même où il y a un des plus jolis. C'est mon ami Marc Cardonnel qui en a une jolie définition. Il dit que c'est probablement un des plus beaux build-up harmoniques qui existent en composition. C'est vrai que la première fois qu'on l'écoute, c'est extrêmement curieux, ces convolutions autour de l'harmonie. Les notes ne font que passer à côté, elles s'arrêtent jamais dessus. Ça monte, ça n'arrête jamais, ça ne se résout jamais. On nous tend la ficelle sans jamais nous la lâcher. Et boum, craque, il y a la résolution qui arrive.
Et c'est un grand soulagement d'ailleurs.
Et c'est un soulagement et en même temps, on lui est extrêmement reconnaissant d'aller nous tirer le pantalon comme ça, loin, jusqu'où il peut le faire. Je trouve que ça fait preuve d'une technique absolument ahurissante de savoir faire ça. Avec un orchestre complet et tout ça. Et c'est un truc que j'ai appris à apprécier de plus en plus. J'en ai été gêné, je ne l'ai pas pigé, puis ça m'a rendu curieux, puis ça m'a obnubilé. Et puis finalement, je trouve que c'est une des choses les plus belles qui a été écrite.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Alexandre Astier, l'invité de Musique et moi ce matin sur France Musique jusqu'à midi et demi. Est-ce que vous avez pensé à un moment devenir interprète pur et dur, Alexandre Astier?
Non.
Jamais.
Non, jamais.
Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que donc vous avez fait ces classes CHAM, vous connaissez quand même très bien la musique. Qu'est-ce qui vous en a empêché, vous a retenu?
Déjà, je crois que je suis un matheux contrarié. Donc je crois que je suis un bon théoricien du solfège. Enfin, je suis un bon, 100 fois meilleur, mais je veux dire, je considère la musique comme une langue étrangère. C'est-à-dire que le premier bénéfice de toutes ces années-là, c'est de savoir l'entendre et la lire et l'écrire. Je trouve que c'est un langage de plus. Pas plus finalement, c'est très humain la musique, donc c'est juste une manière de transcrire ça. Interprète, je suis très admiratif des grands interprètes, mais je crois que j'aurais pas pu avoir leur vie, j'aurais voulu écrire. Quand je pensais que je ne ferais que de la musique, je pensais que je l'écrirais.
Ce que vous faites au fond.
Je me suis débrouillé pour le faire quand même, mais je veux dire, je n'aurais jamais fait que la jouer, j'aurais été triste, je crois.
Ouais, vous n'auriez jamais pu, par exemple, faire cela. Ça sent le festival. On est en juillet 85. Miles Davis, You're Under Arrest, avec Daryl Jones à la basse. Pour vous, Alexandre Astier, ça met dans un état d'euphorie absolue.
Ouais. Ouais. C'est mes héros, ça.
C'est vrai.
Ah oui, totalement. C'est mes héros. C'est d'ailleurs la période électrique, dite électrique de Miles. Et tous les musiciens qu'il a réunis autour de lui. Alors ces tarés de Daryl Jones et de Scofield et de tous ces mecs qui sont complètement fous. Et puis des Al Foster, c'est pas lui sur ce truc-là, mais Al Foster qui venait du ternaire, du jazz classique et tout, et qui l'amenait là, qui était, il savait pas ce qu'il... Al Foster, on entend parler des fois, il dit mais il me demandait de ces trucs, il me demandait de jouer du rock ou du machin. J'adore cette période, je la trouve folle. J'ai monté des groupes où on jouait comme ça. Enfin, on n'avait pas ce talent, mais je veux dire. J'adore cette libération, j'adore cette façon d'improviser, cette technique sur des... Ils improvisent sur un seul accord, il y a un seul accord tout le long, tout le long. Et du coup, il ne s'agit que d'en sortir, de rentrer dans l'harmonie, d'en repartir, de tourner autour. Je trouve ça déjà follement formateur. Et puis, c'est un truc qui me parle vraiment, quoi. Et de ce morceau-là de Daryl Jones, je l'ai relevé avec mes petites papates. J'ai relevé toutes les notes et les machins et j'ai fait pareil.
Ah oui, donc vous avez réussi à faire ce slap
Oui,
ça.
Madame, parce que je ne faisais que celui-là. Là, pour le problème, j'ai pas le talent de l'improviser, mais le copier monsieur, je l'ai fait assez honorablement, je pense.
Vous avez fait l'American School of Jazz à Paris. Mmh. Donc, il y a quand même eu ce chemin. Est-ce que l'improvisation était un début vers votre nouveau métier qui est apparu plus tard?
Je sais pas trop, parce que, en fait, l'improvisation en musique, elle est très cadrée. Il y a une grille, il y a un passage, il y a des tas de choses à respecter, ou en tout cas, les choses qu'on ne respecte pas, on les connaît, donc du coup, la transgression est formulée.
Ouais.
Et, en fait, ce qu'on appelle l'improvisation en théâtre et tout, j'ai pas été à cette école-là, moi. C'est pas quelque chose, j'ai un peu de mal avec, ma mère m'a pas appris ça, en comédie, le fait d'improviser souvent fait appel, et les grands improvisateurs m'en voudront peut-être, mais fait appel au fait d'être un peu plus malin ou un peu plus mariole ou un peu plus inventif sur le coup. Ça transmet pas forcément un talent d'acteur brut. Il y a de très grands acteurs qui n'improvisent pas super bien parce qu'ils ont pas envie de ça, parce que ça se passe pas comme ça. Donc non, je reconnais pas beaucoup de liens en fait entre les deux.
Je voulais plutôt souligner la technicité que ça demande. C'est-à-dire, on peut bien improviser quand on est un super grand technicien.
Oui, et quand on est conscient de ce qui arrive, de ce qu'il y a derrière la musique, quand on est conscient de ce passage de grille et de ces accords qui défilent ou qui ne défilent plus, mais quand on est conscient d'où on vient, de comment on transgresse et comment on revient, c'est sûr que ça a une forme d'expressivité qu'on retrouve, en tout cas en l'état, pas tellement comme ça. Je pense même que des peintres doivent être plus près de ça que ne le sont les acteurs.
Ah oui.
Des peintres qui ont des monogestes ou des choses très lancées comme ça, ou qui arrivent à inventer un environnement où ils réfléchissent pas trop et où, boum, en 15 secondes, l'œuvre est finie, il faut plus la toucher. Peut-être que eux, ils connaissent un truc un peu comme ça. Thank you.
Jaco Pastorius interprète ce titre de Charlie Parker, Donna Lee, accompagné de Donna Lee aux percussions. Vous l'avez écouté avec énormément d'attention, Alexandre Astier.
Je les avais, tous les deux. J'avais Donna Lee, j'avais Pastorius. Mais Pastorius, jeune, non? Parce que
jeune, 76.
C'est ça, parce qu'il a un son vachement moins crade que ce qu'il avait plus tard. Donc, c'est lui, mais je me suis dit, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est un gars qui l'a beaucoup écouté? J'ai hésité entre les deux.
C'était ma surprise pour vous parce que je trouvais que Jaco Pastorius, qui est le roi de la technique, fait partie de ces musiciens que les bassistes connaissent, ont écouté et ont du mal à imiter tant il est virtuose. Vous, comme comédien ou même comme scénariste, est-ce que vous passez beaucoup de temps justement sur l'écriture? Sur cette façon de comment mettre en bouche, comment mettre en mots, vous parliez du rythme tout à l'heure.
Je pense que j'ai l'impression, enfin, de ce dont je me souviens quand j'écrivais pour les groupes que j'ai eus musicalement, par exemple, quand je composais pour eux, ou quand j'écris pour le cinéma ou tout ça, et en fait, j'ai l'impression que j'ai toujours voulu faire plaisir aux gens qui viennent jouer. Et je crois qu'en fait, au début, ça a certainement été un phénomène de protection ou un truc c'est plus pratique quand les gens vous aiment bien, quand vous leur donnez quelque chose à jouer qui les met dans un état de grâce d'être interprété. Et au début, je prenais ça pour de la crainte, que ce soit musical ou pas. Je crois que maintenant c'est quelque chose, je voudrais pas faire autrement, mais je sais pourquoi maintenant, je sais pourquoi je veux pas faire autrement. Je pense que ce qu'on filme ou ce qu'on écoute chez un musicien, c'est le plaisir qu'il a à le faire lui. C'est la première chose qu'on fait. Et en fait, finalement, quand on écoute, quand on lit par exemple ce qu'a pu écrire Molière sur certains trucs, après peut-être que moi j'y vois ce que je veux y voir, j'en sais rien, mais on a l'impression qu'il pensait à ceux à qui, déjà il savait qui allait jouer les rôles, il n'a jamais écrit des personnages pour rien, il a écrit des trucs pour les gens qu'il connaissait. Et je crois que le plaisir chez un acteur ou chez un musicien, c'est pas un bonus, c'est la garantie qu'il est dans l'état dans lequel on veut le voir. Donc, je pense que, oui, je travaille beaucoup, mais je crois que je travaille pour faire plaisir à ceux que je vais croiser.
Donc, ce qui a été instinctif au départ est devenu une méthode.
Alors, soit j'essaye de légitimer un mauvais instinct, parce que maintenant j'ai l'âge et j'ai le droit, mais non, en fait, je crois beaucoup à ça. Par exemple, en scénario, j'essaye de me distinguer de temps en temps de certains scénaristes ou d'une école de scénaristes qui aiment les histoires avant tout. Et en fait, plus je vieillis, plus j'ai envie de dire... à ces scénaristes-là, foutez-nous la paix avec vos histoires. Vous donnez à manger à des comédiens. Donc vous avez une nourriture très particulière à leur donner. Si elle n'est pas là et si vous avez une histoire à me raconter, écrivez-moi un bouquin, ça ira. Mais si vous avez des comédiens, si vous convoquez des comédiens, occupez-vous d'eux d'abord. Donc sachez pour qui vous écrivez et pourquoi et comment. Et pour un musicien, je pense que c'était pareil.
Thank you.
Interprété par Eric et Ulf Wackenius sur l'album Father and Son. Alors c'est l'occasion rêvée, Alexandre Astier, de pouvoir parler du métier que vous avez choisi, peut-être par défaut, comédien, scénariste, parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Néanmoins, c'est comme ça qu'on vous a connu. C'est, dans un premier temps, c'est comme ça qu'on vous a connu.
Ouais. Et en fait, je pense que je sais pas trop ce qui s'est passé, parce que vraiment, quand je faisais mes études de musique. Donc j'ai commencé à 6 ans et puis bon, on n'a jamais vraiment fini. Mais enfin, les écoles, je les ai ratées pas avant 20, 21, le conservatoire, ouais. Et ça m'est vraiment jamais venu à l'idée. Je me serais même jamais autorisé à penser que je ferais autre chose.
Ah ouais?
Non, non.
Vous avez écouté votre mère, enfin, vous alliez être musicien.
Non, puis je sais pas, puis c'était un langage que je savais parler. Ouais. Donc ça aurait été trop bête de pas s'en servir. Et puis en fait, je crois que j'avais d'autres héros encore. Coluche,
faire rire
je
aussi,
sais pas.
C'est ça,
oui,
ouais.
Faire rire, j'avais trouvé que c'était un pouvoir fou de faire rire une salle, quoi. Peut-être encore plus que de leur faire écouter quelque chose. J'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, j'aurais été frustré de pas le faire. J'ai dû faire quelques remplacements dans des pièces de théâtre parce que quand on est fils de comédien, ça nous arrive fatalement, un jour ou l'autre. Et puis, j'ai dû jouer des choses. J'ai joué des classiques. J'ai joué des labiches, je pense, dans un théâtre.
Là, vous avez fait rire.
Ouais. Et puis, c'est très rythmique comme langage, labiche. C'est extrêmement rythmique. Puis finalement, on m'a proposé de refaire un labi, j'ai dû dire, tiens, mais si j'écrivais un truc, j'ai toujours voulu un peu fabriquer de plus en plus, quoi, et puis voilà. Mais ça m'aurait manqué, ouais.
Father and Son, c'est le titre qu'on a écouté, on parlera de votre père tout à l'heure, mais vous, qu'est-ce qui vous a plu dans cet extrait de Birdland de José Winoul?
C'est un peu le pendant de You're Under Arrest qu'on a écouté tout à l'heure, où ça repeint les murs, et où il faut suivre, et où il y a une espèce de... Eux, en fait, ils sont revenus à la base de ce que Birdland est. C'est-à-dire qu'on entend toutes les armos, c'est simple, ça frime pas, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de trop, mais tout est là. C'est-à-dire que le morceau est là dans une belle simplicité, on entend tout bien, il y a du goût, il n'y a ni trop ni pas assez, c'est
ça
de
danse,
bon goût.
Ça ouais. Danse.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Oui, je disais Father and Son, le rapport avec le père, parce que vous avez travaillé avec votre père. On l'a beaucoup vu dans Camelot.
Oui, oui, je travaille avec mes parents, c'est vrai. C'est vrai.
Même votre frère, non?
Mon frère, oui, oui, j'ai bossé avec plein de gens de ma famille. Puis, d'une manière générale, je suis relativement fidèle aux comédiens, même qui sont pas de ma famille, mais avec qui j'ai joué. Je pense que j'ai souvent vu rentrer ma mère du travail ou écouter mon père qui était dans tel ou tel truc. Ils n'étaient pas toujours heureux, c'est-à-dire que des fois on faisait les cons entre nous et c'était mieux. Pas c'était mieux parce que c'était mieux en qualité. Des fois ça l'était, mais surtout que la qualité venait du fait qu'on faisait ce qu'on voulait.
Le rapport au plaisir que vous évoquiez tout à l'heure.
Et en fait, je pense que c'est devenu une école parce que, comme je vous le disais, je crois que ça n'est pas une fausse école. Je crois que c'en est une vraie. Je pense que c'est ça en fait faire ce métier. Mais en fait, faire plaisir à un acteur, c'est essayer que les gens le voient sous son meilleur jour un peu, que ce soit ses parents ou pas. Faire plaisir à un acteur, c'est dire Ben, je vais vous le montrer comme peut-être vous l'avez jamais vu, ou pas tout à fait comme ça. Je vais lui faire dire ça, vous allez voir, ça va vous surprendre, ça va vous émouvoir, ça va vous faire marrer. Et je pense que d'abord, c'est parce que j'ai voulu faire plaisir à mes parents.
Est-ce que ça leur a fait plaisir?
J'espère.
Ouais.
Vous leur avez demandé?
On va leur demander.
Ok.
Après l'émission.
Thank you.
L'Allegro vivace de la symphonie numéro 8 en fa majeur, opus 93 de Ludwig van Beethoven, interprété par l'orchestre révolutionnaire et romantique sous la direction de John Eliot Gardiner. C'est une symphonie qui est chère à votre cœur, mais pour le chef d'orchestre, je crois, Alexandre Astier.
Oui, parce qu'en fait, un jour, figurez-vous qu'on me dit « Gardiner, il aime bien ton spectacle ».
Lequel, que ma joie demeure.
Que ma joie demeure. Je dis, mais ah bon, mais il y a quand même autre chose à l'affiche, Gardiner, que de regarder des trucs. Et en fait, alors Gardiner a travaillé à Lyon, parce qu'il a dirigé là-bas longtemps. J'étais petit, mais bon, je savais qu'il était là. Et en fait, je suis allé le voir à Londres, Gardiner. Donc je suis allé le voir chez lui, parce qu'il était curieux du bonhomme qui avait fait ce truc-là, quoi. Voilà, qui regardait de temps en temps. C'est probablement une manière de lui parler de Bach qu'on lui avait pas encore faite, je sais pas. En tout cas, voilà, je me suis bien entendu avec lui, on a parlé de Lyon, donc, on a parlé de musique, on a parlé de tout ça. Le soir, il m'a invité à aller le voir avec son orchestre, ils ont joué ça. Et effectivement, je vais dire un truc énorme, je suis pas un dingo de Beethoven, je suis pas un foufou de Beethoven.
Non, pourquoi ?
Je sais pas, j'avais un... Mon prof d'écriture, je reviens encore à lui, mais il me disait, tu vois, Beethoven... On sait toujours ce qui va arriver. Il n'y a jamais de surprise. Mais c'est quand même génial. J'ai, ouais, j'ai l'impression quand même que le fait de savoir un peu ce qui va arriver, ça me gâche le truc à moi. Hein. Après, c'est perso, je sais qu'il y a des fous de Beethoven, il y a des dingos. Mais voilà, c'est pas... Eh ben, par Gardiner, ça devenait bestial. Je ne sais pas pourquoi. Il sautille sur son machin, il a un orchestre absolument fou là-bas. Alors, j'ai eu ça. Et puis bon, effectivement, le fait de le voir... par son entremise à lui, c'est-à-dire directement invité par le patron, il y avait un truc et j'ai entendu Beethoven comme je n'avais jamais eu la politesse de l'écouter jusqu'avant et ça m'a vachement réconcilié parce que oui, effectivement, ça peut être absolument génial. Et j'adore les Anglais en fait.
Oui, dans les interprètes visiblement.
Il y a presque que.
Ouais.
Ceci dit, les acteurs, c'est un peu pareil.
Oui. Et qu'est-ce qu'il y aurait comme point en commun entre les acteurs et les interprètes anglais ?
L'académisme.
Ouais.
Et le ras-le-bol de l'académisme. C'est le mélange que j'adore.
Ouais.
Donc en fait, ça fait des académiciens tarés. Et ça fait un bon amalgame.
Et d'ailleurs, votre humour, on a dû vous le dire des centaines de fois, mais on sent qu'il y a un humour un peu british. La phrase de la Woody Allen, qui est plutôt américaine, mais l'éternité, c'est très long, surtout vers la fin. Vous avez cet humour-là qui est presque du troisième degré.
En fait, la comédie chez les Anglais, c'est un genre sérieux. Des fois, tout le monde le sait, et puis je suis pas le seul comme ça. On souffre un peu en France que la comédie soit un genre divertissant. J'aime pas le divertissement, moi. Je n'aime pas la promesse d'être diverti. Je trouve ça très prétentieux déjà. Et puis c'est aussi pas très respectueux pour moi de penser que c'est ce que je veux, d'être diverti. Je m'en fous d'être diverti. Je voudrais être bouleversé, s'il vous plaît. Et on peut être bouleversé par une comédie. On peut rire beaucoup et on peut rire bien. Mais il faut que la chose soit faite très sérieusement. Et pour moi, les maîtres de ça, c'est les Anglais. Effectivement, la comédie, pour eux, c'est pas un genre... C'est un truc qu'on fait très sérieusement pour que ça marche. Des fois, c'est pas si vrai que ça chez nous. C'est dommage.
Dans mon énumération du début, j'ai oublié de dire que vous étiez chef d'orchestre.
Non, mais non, je ne le suis pas. Qu'est-ce que vous allez raconter aux gens ?
Thank you. Un extrait de la bande originale du film David et Madame Hansen. Alors, Alexandre Astier, vous avez composé la musique de ce film et vous avez dirigé.
Oui, je ne sais pas si mal passé que ça, en fait. C'était... Alors moi, je suis un peu... J'essaye de rester chez moi beaucoup. J'aime bien aller travailler en vélo ou à pied.
On s'en est rendu compte, ça fait longtemps qu'on avait envie de vous recevoir. Donc.
Oui, c'est vrai que je suis un peu casanier. Ça ne s'arrange pas avec l'âge, d'ailleurs.
Ah bon, mince.
Mais, ouais. Mais,
merci d'être là, alors.
Avec plaisir. Simplement, oui, j'ai un ami d'enfance qui s'appelle Gaël Rassard, qui dirige un peu cette Camerata. Et j'avais envie de faire une musique chez moi, de manière un peu artisanale, avec peut-être... Alors, j'ai pas eu l'orchestre au complet, parce que j'en voulais pas, c'était plutôt piano-corde, en fait, comme écriture. Et on a fait ça un peu entre nous. Et en fait, je crois que j'aime bien bosser en petit comité, avec des gens que j'aime bien. Je me suis dit un jour que j'en avais rien à fiche de travailler avec des gens avec qui je ne supporterais pas de déjeuner. Finalement, c'est une règle qui marche assez bien.
D'accord.
Si je sens que je m'ennuie avec quelqu'un à déjeuner,
en fait,
j'ai pas envie de bosser avec.
Vous voulez toujours vous amuser, Alexandre Astier.
Oui, madame.
Toujours. Ouais.
Est-ce que c'est un reproche?
Loin de là.
Bon.
La musique, donc vous avez dirigé.
Oui.
C'est encore autre chose, là.
Oui. Là, j'avais dirigé, c'était un petit peu plus simple. Là, j'ai dirigé l'Orchestre National de Lyon pour le générique de Kaamelott qui est dans les bonus du coffret.
Oui.
Là, j'ai repris quelques cours de direction.
Mais ça, c'est pour vous faire plaisir parce que vous parlez de gérer le rythme. Vous aimez tenir le rythme.
Ouais, puis je crois qu'en fait, ce que je préfère, c'est apprendre des trucs.
Ah, d'accord.
Tout court.
Continuer d'apprendre.
Ouais. Je suis toujours en train de... Enfin, ça ne m'a jamais lassé. Et du coup, en plus, ça me fait rencontrer des gens formidables. C'est au travers du spectacle et au travers du fait que je prends leur travail au sérieux que j'ai la chance de pouvoir passer ne serait-ce qu'une demi-heure avec certains et parler de trucs qui me fascinent. Donc, je ne sais pas si je dirige pour avoir l'occasion d'apprendre à diriger ou si j'apprends à diriger pour avoir l'occasion de diriger. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est largement valable dans un sens comme dans l'autre.
Et la composition, c'est important, on va en parler dans quelques instants, mais la composition, je crois, précède les scénarios, Alexandre Astier.
Oui, parce que le truc, c'est que si je veux, alors déjà, c'est un peu pratique, c'est-à-dire que si je veux pas être le goulot d'étranglement du truc, c'est-à-dire que on a fini de tourner et il faut attendre que monsieur compose pour aller le diriger, pour faire le montage, pour faire, ça n'a pas de sens. Donc en fait, j'essaye de prendre de l'avance. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, si la musique existe avant, je sais que je vais devoir tourner exactement pour rentrer dans la musique et du coup monter pour rentrer dans la musique. Et en fait, c'est un sacré raccourci de post-production par rapport à la façon.
Oui, le montage ira plus vite si vous avez déjà la musique.
Oui, parce que déjà, je tourne pas ce que je ne vais pas monter. Des fois, en tournage, on tourne tout
on
comme
trop.
Ça, tout comme ci, tout comme ça, ouais. On verra et au montage, on l'aura. Moi, je fais pas ça. Je tourne que ce dont j'ai besoin, pas beaucoup.
La bande originale du film Chambre avec vue, une bande originale du film signée Richard Robbins. Je crois que c'est un compositeur de chevet, Richard Robbins, pour vous,
oui.
Alexandre Astier.
Surtout depuis Les Vestiges du Jour, plus encore que Chambre avec vue.
Ah oui.
Ouais, parce qu'il fait de la musique répétitive là-dedans, il fait des choses qui se marient tellement bien avec le script de ce type qui est en retard sur tous ses sentiments et sur toute sa pudeur et qui, c'est une musique qui peine, qui rame à y arriver. C'est, je sais pas, je vais être franc, je suis moins impressionné par la technique d'écriture et d'orchestration pure comme je peux l'être par John Williams sur les dernières bandes de Star Wars, sur les trucs où je trouve ça complètement fou. Je trouve qu'il fait avancer l'écriture tout court, pas de film, l'écriture classique, quoi, vraiment. C'est peut-être plus en demi-teinte, Robbins, mais c'est du sentiment brut, quoi. C'est un anglais, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Mais alors justement, vous qui êtes à tous les niveaux de ces métiers, est-ce que la musique de film, la composition d'une musique pour un film est différente de la composition d'une musique tout court?
Je crois pas, mais parce que je le fais avant. On m'a jamais présenté, enfin si, je l'ai fait quand j'étais un peu plus petit, mais présenter un film fait ou quasi fait pour faire la musique après et tout ça. Puisque je la fais avant, en fait, je la fais librement. Je la fais sans image.
D'accord, vous la pensez sans image.
Donc je peux composer juste tout court. Après, évidemment, il y a le style. Je veux dire, si c'est pour Kaamelott, je vais pas. J'ai déjà un choix. Déjà, c'est orchestral. Ça va pas être du jazz ou des choses comme ça. Quoique je l'ai déjà fait sur la saison 6, mais à part quelques restrictions de méthode, moi, je compose juste ce que j'ai envie. Je sais que ça va tomber dans une scène, de toute façon. A priori, je raconte à peu près la même chose sous toutes ses formes. Donc ça devrait bien coller à un moment. Ça devrait.
Ouais. Sans la liberté d'avoir pu faire tout ce que vous faites, est-ce qu'Alexandre Astier, vous auriez pu imaginer écrire des spectacles sans la musique? Parce qu'on sent bien que finalement tout est musique avec vous.
Mais je crois que tout est prétexte à écrire de la musique pour moi en fait.
Ouais,
je sais pas si je fais pas des spectacles pour écrire de la musique ou c'est marrant. Enfin, c'est Coluche qui avait ce truc là en disant cette voiture là en fait il fabrique l'allume-cigare puis il fabrique la voiture autour. Moi, je crois que c'est ça. Je commence toujours par tout petit. Et puis, après, je fais le reste petit à petit.
On va bientôt se quitter. Alors, comment on va bientôt se quitter? Je ne vais pas vous demander de chanter. Mais
c'est tout à votre crédit.
Bon, bah, on va chanter à votre place. Le premier prélude du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach interprété au clavecin par Scott Ross. Il fallait un peu de clavecin.
Il est bien, Ross.
Vous l'aimez bien?
Oui, beaucoup.
Le clavecin, d'ailleurs, vous amusez hein, dans Que ma joie demeure avec. C'est un instrument que vous chérissez?
C'est compliqué parce qu'au clavecin, il n'y a pas de fort et de faible. C'est tout à volume égal. Donc, est-ce que Bach est fait pour être joué au piano forte, comme on l'appelait. Est-ce que c'est Gould qui a raison? Ou alors est-ce qu'il faut faire comme Bach faisait, c'est-à-dire ne pas avoir cette expression-là? On n'a pas le droit au fort et au faible. Et c'est forcément que la musique de Bach est écrite en sachant que toute l'émotion et tous les reliefs de sa musique ne vont venir que de l'harmonie brute, et effectivement du dynamisme et du rythme, et qu'il y a plein de choses qu'on peut faire sans le volume. Mais quand même, c'est un sacré paramètre en moins. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'il faut écouter Bach toujours.
En tout cas, c'est pour ça que vous ne le chantez pas.
Mais je ne vais pas chanter les préludes en nut du premier clavier bien tempéré. C'est catastrophique. J'ai réussi à pas passer trop pour un imbécile dans cette émission. Vous n'allez pas m'achever comme ça.
Non, j'aurais bien aimé quand même. On va se quitter avec Bobby McFerrin parce que lui, pour le coup, il chante tout.
Bon, bah lui, il y arrive, voilà.
Voilà. Mais je voulais quand même rappeler avant qu'on se quitte que le coffret intégral de Kaamelott est sorti le 3 octobre dernier. Les 6 livres, hein, c'est ça?
Oui.
On peut trouver le DVD de Que ma joie demeure et je le recommande à tous les auditeurs puisque les auditeurs de France Musique aiment la musique. Je le recommande vivement. C'est vraiment un spectacle époustouflant. On découvre Bach, on vous découvre. Il y a de l'humour. C'est pour tout le monde, même pour les petits. Je peux en témoigner. Et puis dire aussi qu'il y a le dernier Astérix qui sort en décembre, c'est
ça? Tout à fait.
Vous pouvez me rappeler le titre, c'est
Le secret de la potion magique.
C'est ça, bientôt en salle. Donc, merci beaucoup à vous d'être venu.
Merci.
Et on va se quitter sur Blackbird. On n'ouvrira pas les micros, mais j'espère que vous prendrez du plaisir à écouter cette interprétation par Bobby McFerrin. Vous l'aimez bien, hein?
Beaucoup. Et puis, il est fait des masterclass, il apprend la musique aux gens. C'est un grand monsieur, Bobby McFerrin.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci de m'avoir invité.
Bon retour à Lyon.
Merci beaucoup. Blackbird singing in the dead of night. Boom, 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 boom. Take these broken wings and learn to fly. Boom, 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 boom. For your life. Boom, 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 boom. You were only waiting for this moment to arrive. Beep, beep, beep. Blackbird singing in the dead of night. Take these open eyes and learn to see. Dim dum ba dum, dum ba dum. All your life, dum dum dum, dum dum. You were only waiting for this moment to be free. Be 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 doo doo blah. Blackbird fly. Dum be be doo be dee boom boom blah. Blackbird fly. Dum boom be doo. Yeah, to the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Boom, 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 your life. Boom, 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 you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. Boom, 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 your life. Boom, 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 boom. You were only waiting for this moment to be free. Beep, 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 doo, blah, heck, heck, bird, hurt, fly. Beep, beep, doo, boom, wee, beep, blah, heck, 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 bird, hurt, fly. Beep, beep, doo, blah, into the light of a dark black night. Beep, beep, doo, blah, heck, heck, bird, hurt, fly. Beep, beep, doo, boom. Baby, blah, heck, heck, bird, boom, boom, into the light of the dark black night. Blah, heck, heck, bird, fly, baby, dirt, wee, baby, doo, blah, heck, heck, bird, fly, boom, boom, into the light of the dark black night. Blackbird, interprété par Bobby McFerrin pour terminer cette émission. En compagnie d'Alexandre Astier qui est reparti à Lyon, ça y est. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Un grand merci à Manu Couturier qui était à la prise de son ce matin. C'est Sophie Pichon qui a réalisé cette émission, assistée de Marie Ferdinand. Merci, un grand merci à Sophie Pichon qui a été particulièrement présente aujourd'hui.
À très bientôt sur France Musique, 11h dimanche prochain, comme d'habitude.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.